Chapitre 8. Wakeham vu sous un nouveau jour. 3 jours s'étaient à peine écoulés depuis la conversation que nous venons d'entendre, et Lucy avait déjà réussi à avoir une entrevue avec Philip pendant que Maggie faisait une visite à sa tante Glegg. Durant un jour et une nuit, Philip retourna dans son esprit avec une continuelle agitation tout ce que lui avait dit Lucy jusqu'à ce qu'il eût complètement résolu la marche qu'il devait suivre. Il croyait voir maintenant devant lui la possibilité de changer sa position à l'égard de Maggie et d'écarter l'un des obstacles qui les séparaient. Il forma son plan et calcula tous ses mouvements avec la véhémente délibération d'un joueur d'échecs au jour de sa première ardeur, et fut lui-même étonné de son soudain génie de tacticien. Son plan était aussi hardi que sagement calculé. Ayant saisi un moment où son père n'avait pas d'occupation plus urgente que la lecture du journal, il vint derrière lui et lui posa la main sur l'épaule en disant « Père, voulez-vous venir dans mon sanctuaire et voir mes esquisses? Je les ai arrangées maintenant. » « Mes jointures deviennent terriblement raides, Philip, pour grimper les 5 étages, » dit Wakeham en regardant son fils avec bonté et posant son journal. « Mais allons, je le veux bien. » « Voilà un joli endroit pour toi, Phil. » « N'est-ce pas fameux ce jour venant du haut ?» fut comme d'habitude la première observation qu'il fit à son entrée dans l'atelier. Il aimait à rappeler et à redire à son fils que c'était son indulgence paternelle qui lui avait procuré cette agréable retraite. Il avait été un bon père. Emily n'aurait rien à lui reprocher à ce sujet si elle revenait de son tombeau. « Voyons, voyons, » dit-il, en mettant son binocle sur son nez et s'asseyant pour juger de l'effet général, tout en reprenant haleine. « Tu as là une superbe exposition. Sur ma parole, je ne crois pas que tes œuvres soient inférieures à celles de cet artiste de Londres, comment s'appelle-t-il, à qui Leyburn a donné tant d'argent pour son portrait. » Philip secoua la tête et sourit. Il s'était assis sur sa chaise de travail et avait pris un crayon de mine de plomb avec lequel il traçait quelques vigoureux traits pour dominer son tremblement nerveux. Il examinait son père qui s'était levé et faisait lentement le tour de l'atelier, s'arrêtant avec bienveillance plus de temps que sa dose naturelle de goût pour le paysage ne l'y aurait porté, jusqu'à ce qu'il se trouvât devant un chevalet sur lequel étaient posées 2 peintures, l'une beaucoup plus grande que l'autre, la plus petite dans un écrin en maroquin. « Miséricorde, qu'as-tu là ?» dit Wakeham, surpris par cette transition du paysage au portrait. « Je croyais que tu avais abandonné la figure. Qui sont celles-ci » « C'est la même personne, » dit Philip avec une promptitude calme, à des âges différents. « Et quelle personne ?» dit vivement Wakeham, en fixant sur le plus grand portrait des yeux devenus soupçonneux. « Miss Talleva. » Le petit donne une idée de ce qu'elle était lorsque j'étais en pension avec son frère à King's Lorton. Le second est une ressemblance moins juste de ce qu'elle était quand je suis revenu de l'étranger. Wakeham se retourna brusquement, le visage enflammé, laissant retomber son binocle et regardant son fils pendant un moment avec une expression sauvage, comme s'il était prêt de renverser de son siège cet être à la fois faible et audacieux. Mais il se jeta dans le fauteuil et enfonça ses mains dans ses poches, regardant toutefois encore son fils avec colère. Philip ne lui rendit point son regard, mais resta tranquillement assis à examiner la pointe de son crayon. « Et penses-tu me dire alors que tu as eu quelques relations avec elle depuis ton retour de l'étranger ?» dit enfin Wakeham, avec cet effort impuissant que fait toujours la fureur pour infliger autant de châtiments que possible par le ton et les paroles, lorsque les coups ne sont pas permis. Oui, je l'ai beaucoup vu pendant toute l'année qui précéda la mort de son père. Nous nous sommes souvent rencontrés dans le petit bois des Fonds Rouges, près du moulin de Dorlcote. Je l'aime tendrement. Je n'aimerai jamais une autre femme. Je n'ai cessé de penser à elle depuis que je l'ai connue petite fille. Continuez, monsieur. Et vous avez correspondu avec elle tout ce temps ? Non, je ne lui ai jamais dit que je l'aimais, qu'au moment de nous séparer, et elle a promis à son frère de ne pas me revoir et de ne pas correspondre avec moi. Je ne suis pas sûr qu'elle m'aime ou qu'elle consentit à m'épouser, mais si elle y consentait, si elle m'aimait assez pour y consentir, je l'épouserais. Et voilà la récompense de toutes les bontés dont je vous ai accablé, dit Wakem en pâlissant et commençant à trembler sous le sentiment de sa fureur impuissante devant la calme audace et la ferme décision de Philip. Non, mon père, dit Philip, en levant les yeux sur lui pour la première fois. Je ne le considère point ainsi. Vous avez été pour moi un père indulgent, et j'ai toujours compris que c'était parce que vous aviez un sincère désir de me donner autant de bonheur que mon malheureux sort pouvait le permettre, et non pour me faire contracter une dette dont vous attendiez le paiement par le sacrifice de toutes mes chances de bonheur à des sentiments que je ne puis partager avec vous. Je crois que la plupart des fils partageraient les sentiments de leur père dans ce cas, dit Wakem avec amertume. Le père de cette fille était une ignorante brute furieuse qui a été près de m'assassiner. Toute la ville le sait. Et le fils est tout aussi insolent, seulement d'une manière plus froide. Il vous a défendu de vous voir, dites-vous. Il brisera tous les os de votre corps pour votre plus grand bonheur si vous n'y prenez garde. Mais vous paraissez décidé. Vous avez prévu les conséquences, je suppose. Naturellement, vous êtes indépendant et libre. Vous pouvez épouser cette fille demain, si vous voulez. Vous avez 25 ans. Vous pouvez aller de votre côté, et moi j'irai du mien. Nous n'aurons plus rien de commun l'un avec l'autre. Wakem se leva et marcha vers la porte. Mais quelque chose le retint, et au lieu de quitter la chambre, il s'y promena de long en large. Philip fut lent à répondre. Et quand il le fit, sa voix était calme et avait une clarté plus incisive que jamais. Non, je ne puis épouser Miss Taleva, même si elle y consentait, si je n'ai que mes seules ressources pour l'entretenir. Je n'ai été élevé dans aucune profession. Je ne puis lui offrir la pauvreté en même temps que la difformité. Ah, voilà une raison pour vous de vous attacher à moi, sans doute, dit encore Wakem amèrement, quoique les dernières paroles de Philip lui eussent donné un coup douloureux, en ravivant un chagrin devenu chez lui une pensée habituelle pendant un quart de siècle. Il retomba de nouveau dans le fauteuil. « Je m'attendais à tout ceci, dit Philip. Je sais que ces scènes ont souvent lieu entre père et fils. Si j'étais comme les autres hommes de mon âge, je pourrais répondre à vos paroles de colère par des paroles plus irritées encore. Nous pourrions nous séparer, j'épouserais la femme que j'aime, et j'aurai la chance d'être heureux comme tant d'autres. Mais si ce peut être une satisfaction pour vous d'annihiler le résultat de tout ce que vous avez fait pour moi, vous avez un grand avantage sur la plupart des pères. Vous pouvez complètement me priver de la seule chose qui donne quelque valeur à ma vie. » Philip s'arrêta, mais son père gardait le silence. « Vous savez mieux que moi quelle jouissance vous auriez, outre celle de satisfaire une rancune ridicule, digne seulement de sauvages nomades. » Une rancune ridicule, s'écria Wakem, que veux-tu dire? Damnation! Est-ce qu'un homme doit recevoir des coups de fouet d'un rustre et l'aimer pour cela? De plus, il y a ce froid et orgueilleux diable de fils qui m'a dit un mot que je n'oublierai jamais quand nous avons fait notre arrangement. Ce serait le plus joli but que je connaisse pour une balle de revolver s'il en valait la dépense. Je ne parle pas de votre ressentiment contre eux, dit Philip, qui avait ses raisons pour partager cette répulsion à l'égard de Tom, quoique le désir d'une vengeance ne vaille pas trop la peine d'être conservé. Je veux parler de l'extension de votre animosité à une pauvre fille sans défense qui a trop de bonté et de bon sens pour partager leurs étroits préjugés. Elle n'est jamais entrée dans les querelles de famille. Qu'est-ce que cela signifie? Nous ne demandons pas ce qu'une femme fait. Nous demandons à qui elle appartient. C'est de toute manière une chose dégradante pour toi que de penser à épouser la fille du vieux Taleva. Pour la première fois pendant ce dialogue, Philip perdit un peu de son empire sur lui-même et rougit de colère. Mais Taleva, dit-il d'un ton décidé, possède tous les droits à un rang que la sottise vulgaire attribue seulement à la classe moyenne. Elle est tout à fait distinguée, et ses amis, quels qu'ils puissent être à d'autres égards, sont respectés pour leur honneur et leur irréprochable intégrité. Tous Saint Oaks, je suppose, la proclamerait comme m'étant supérieure. Wakem lança à son fils un coup d'œil d'orgueilleuse interrogation. Mais Philip ne le regardait pas, et continua avec une certaine humilité, quelques instants après, comme pour corroborer ses dernières paroles. Trouver une seule personne à Saint Oaks qui ne vous dise pas qu'une aussi belle jeune fille qu'elle n'est pas à blâmer en se donnant à un objet digne de pitié comme moi. » Ce n'est pas elle qui le dira, certainement, dit Wakeham, se levant de nouveau et oubliant toute autre chose dans l'explosion du ressentiment de la blessure faite à sa fierté de père et d'homme. Ce serait un mariage diablement beau pour elle. Que signifie une difformité accidentelle quand une demoiselle est réellement attachée à un homme? Mais les demoiselles ne sont pas sujettes à s'attacher dans de telles conditions, dit Philippe. Tant mieux alors, dit Wakeham presque brutalement, en essayant de reconquérir sa position précédente. Si elle ne tient pas à toi, tu aurais pu t'épargner la peine de me parler d'elle, et à moi celle de refuser mon consentement à ce qui ne devait probablement jamais arriver. Wakeham s'élança vers la porte, et sans se retourner, la tira violemment après lui. Philippe n'était pas sans espérance que son père ne fût amené à ce qu'il désirait, malgré ce qui s'était passé. Mais la scène avait irrité ses nerfs, qui étaient aussi impressionnables que ceux d'une femme. Il se décida à ne pas descendre pour le dîner. Il n'aurait pu se retrouver en présence de son père ce jour-là. C'était l'habitude de Wakeham, quand il était seul chez lui, de sortir le soir, souvent même à 7h30, et comme l'après-midi était déjà avancé, Philippe ferma sa chambre à clé et partit pour faire une longue promenade, dans l'intention de ne pas rentrer avant que son père fût de nouveau hors de la maison. Il prit un bateau, redescendit la rivière, et s'arrêta à un village favori, où il dîna et resta jusqu'à ce qu'il fût assez tard pour revenir. Il n'avait jamais eu précédemment aucune espèce de querelle avec son père, et il craignait que cette contestation qui venait de commencer ne durât pendant des semaines. Et que ne pourrait-il pas arriver pendant ce temps? Il ne voulait pas chercher à approfondir cette question involontaire. Mais s'il pouvait se faire accepter en qualité de prétendant par Maggie, il y aurait moins de sujets de crainte vague. Il remonta à son atelier de peinture et se jeta avec une sensation de fatigue dans le fauteuil, regardant avec distraction les vues d'eau et de rochers rangés autour de lui, jusqu'à ce qu'il tombât dans un assoupissement pendant lequel il lui sembla voir Maggie glisser le long d'un canal reluisant, verdâtre et visqueux, vers une chute d'eau. Et il la regardait sans pouvoir lui porter secours, lorsqu'il fut réveillé par ce qui lui sembla être une secousse soudaine et effrayante. C'était le bruit de la porte qui s'ouvrait. Il ne s'était assoupi que quelques instants, car il n'y avait aucun changement appréciable dans la clarté du soir. Son père entrait, et quand Philippe se leva pour offrir le fauteuil, il dit « Reste tranquille, je préfère me promener. » Il parcourut une ou deux fois la chambre, et s'arrêtant devant Philippe, les mains dans ses poches, il lui dit, comme s'il continuait une conversation qui n'aurait pas été interrompue, « Mais il paraît que cette fille t'aimait, Phil. Autrement, vous ne vous seriez pas réunis ainsi. » Le cœur de Philippe battit rapidement, et une rougeur passagère traversa son visage comme un brillant rayon. Il ne lui fut pas tout à fait facile de répondre immédiatement. Elle m'aimait à King's Lorton lorsqu'elle était petite fille, parce que je restais beaucoup auprès de son frère qui s'était blessé le pied. Elle en avait conservé le souvenir et me considérait comme un très ancien ami. Elle ne pensait point à moi comme amoureux quand elle m'a rencontré. Bien, mais tu lui as fait la cour ensuite. « Qu'a-t-elle dit alors ?» dit Wakeham en se promenant de nouveau. « Alors, elle a dit qu'elle m'aimait. »« Damnation ! Que demandes-tu donc de plus ? Est-ce une coquette ?»« Elle était très jeune à ce moment, » dit Philippe, en hésitant. « J'ai peur qu'elle sût à peine ce qu'elle sentait. Je crains que notre long éloignement et l'idée que les événements survenus doivent nous séparer n'aient pu la faire changer. »« Mais elle est en ville. Je l'ai vue à l'église. » Ne lui as-tu pas parlé depuis ton retour? Si, chez M. Dean. Mais je n'ai pu lui renouveler mes propositions pour plusieurs motifs. Un obstacle serait aplani si vous vouliez donner votre consentement, si vous vouliez bien penser à elle comme belle-fille. Wakeham garda quelque temps le silence, arrêté devant le portrait de Maggie. Ce n'est pas l'espèce de femme qui était ta mère, toutefois, Phil, dit-il enfin. Je l'ai vue à l'église. Elle est plus belle. De diablement beaux yeux et une superbe tournure, mais plutôt dangereuse et difficile à diriger. Elle est très tendre, très affectionnée, et si simple sans aucun de ces petits airs et petits moyens dont se servent les autres femmes. « Ah !» fit Wakem, puis se tournant vers son fils. « Mais ta mère paraissait plus douce. Elle avait les cheveux bruns ondés et les yeux gris comme tu les as. Tu ne peux pas très bien te rappeler. C'est mille fois dommage que je n'ai pas son portrait. Alors, ne seriez-vous pas content que j'eusse la même espèce de bonheur, mon père, pour adoucir ma vie? Il ne peut exister de lien plus fort que ceux qui vous ont unis à ma mère, il y a 28 ans, et dont le souvenir vous a toujours été si cher. Ah, Phil, tu es le seul qui connaisse la meilleure partie de moi-même, dit Wakem, en tendant la main à son fils. Nous devons rester unis, si nous le pouvons. Et maintenant, que dois-je faire? Descendons et tu me le diras. Dois-je aller faire visite à cette demoiselle aux yeux noirs? La barrière une fois brisée ainsi, Philippe put parler librement à son père de toute leur relation avec les Taleva, du désir de faire rentrer le moulin et les terres dans la famille, et du transfert à Guest et compagnie comme moyen intermédiaire. Il pouvait maintenant se hasarder à être persuasif et pressant, et son père céda plus facilement qu'il ne l'avait espéré. « Je ne tiens pas au moulin, » dit-il enfin avec une sorte de complaisance et de mauvaise humeur. « J'ai eu dernièrement un infernal ennui à son égard. Qu'il me paye mes améliorations, voilà tout. Mais il y a une chose que tu ne dois pas me demander. Je n'aurai aucune transaction à faire directement avec le jeune Taleva. Si tu veux bien l'avaler à cause de sa sœur, tu le peux, mais je n'ai aucune sauce qui puisse le faire passer. » Je vous laisse à juger avec quelles agréables pensées Philippe alla le lendemain chez M. Dean lui dire que M. Wakem était disposé à entamer les négociations, et le petit air de triomphe de Lucy quand elle en appela à son père pour savoir si elle n'avait pas montré une grande habileté dans les affaires. M. Dean fut tout à fait embarrassé et soupçonna qu'il y avait quelque chose qui se passait entre les jeunes gens et dont il n'avait pas la clé. Mais pour les hommes de la trempe de M. Dean, ce qui se passe parmi les jeunes gens est aussi étranger aux véritables affaires de la vie que ce qui se passe entre les oiseaux et les papillons, jusqu'à ce que l'on puisse démontrer que cela a quelque fâcheuse influence sur les transactions pécuniaires. Et dans ce cas, l'influence paraissait tout à fait propice.